Le prince Rénine avait écouté silencieusement. Mais Hortense, à mesure que le dénouement approchait, s'était laissé gagner par une hilarité qu'elle contenait avec peine et dont le jeune homme ne pouvait manquer de s'apercevoir. « Excusez-moi !» bégayait-elle les larmes aux yeux. « Excusez-moi, c'est nerveux !» Il répondit doucement, sans amertume.
« Ne vous excusez pas, madame. Je vous ai averti que mon histoire est de celles qui font rire. Et j'en connaissais mieux que personne la niaiserie et l'absurdité. Oui, tout cela est burlesque. Mais croyez-moi, si je vous dis que dans la réalité, ce ne fut pas drôle. Situation comique en apparence et qui, par la force des choses, demeure comique. Mais situation affreuse. Vous voyez cela d'ici, n'est-ce pas ? Les deux mères, dont aucune des deux n'était sûre d'être la mère, mais dont aucune n'était sûre de ne point l'être, se cramponnant à Jean-Louis. C'était peut-être un étranger, mais c'était peut-être l'enfant de leur chair et de leur sang. Elles l'aimèrent à l'excès et se le disputèrent avec rage. Et surtout, elles en arrivèrent toutes deux à se haïr d'une haine mortelle. Différentes de caractère et d'éducation, obligées de vivre l'une près de l'autre, puisqu'aucune ne voulait renoncer aux bénéfices de sa maternité possible, elles vécurent en ennemies que rien ne désarme. C'est au milieu de cette haine que je grandis. C'est cette haine que l'une et l'autre m'apprirent. Si mon cœur d'enfant, avide de tendresse, me portait vers l'une d'elles, l'autre m'insinuait le mépris et l'exécration. Dans ce manoir qu'elles achetèrent à la mort du vieux médecin et qu'elles flanquèrent de deux pavillons, je fus leur bourreau involontaire et leur victime de chaque jour. Enfance torturée, adolescence effroyable. Ah, je ne crois pas qu'un être ait souffert plus que moi.
Il fallait les quitter.
On ne quitte pas sa mère. Et l'une de ses femmes est ma mère. Et l'on n'abandonne pas son fils. Et chacune d'elles peut croire que je suis son fils. Nous étions rivés tous les trois, les uns aux autres, comme des forçats. Rivés par la douleur, par la compassion, par le doute. Par l'espoir aussi que la vérité éclaterait peut-être un jour. Et nous sommes encore là, tous les trois, à nous injurier et à nous reprocher notre vie perdue. Ah, quel enfer ! Comment s'évader ? Plusieurs fois je l'ai tenté. Cet été encore, dans l'élan de mon amour pour Geneviève, j'ai voulu m'affranchir et j'ai tâché de convaincre les deux femmes que j'appelle maman. Et puis je me suis heurté à leurs plaintes, à leur haine immédiate contre l'épouse, contre l'étrangère que je leur imposais. J'ai cédé. Qu'aurait fait Geneviève ici, entre Madame Dormivoile et Madame Vaubois ? Avais-je le droit de la sacrifier ?
Jean-Louis, qui s'était animé peu à peu, prononça ces dernières paroles d'une voix ferme, comme s'il eût voulu qu'on attribuât sa conduite à des raisons de conscience et au sentiment de ses devoirs. En réalité, et Rénine et Hortense ne s'y trompèrent point, c'était un faible, incapable de réagir contre une situation absurde dont il avait souffert depuis son enfance et qui s'était imposée à lui comme irrémédiable et définitive. Il l'a supportée ainsi qu'une lourde croix qu'on n'a pas le droit de rejeter, et en même temps il en avait honte. En face de Geneviève, il s'était tu par crainte du ridicule. Et depuis, retourné dans sa prison, il y demeurait par habitude et par veulerie. Il s'assit devant un secrétaire et rapidement écrivit une lettre qu'il tendit à Rénine.
« Vous voudrez bien vous charger de ces quelques mots pour Mademoiselle Aymar et la supplier encore de me pardonner. »
Rénine ne bougea pas. Et comme l'autre insistait, il prit la lettre et la déchira.
Que signifie ?
Cela signifie que je ne me charge d'aucune missive.
Pourquoi donc ?
Parce que vous allez venir avec nous.
Moi ?
Et que vous serez demain près de Mademoiselle Aymar, et que vous ferez votre demande en mariage. Jean-Louis regarda Rénine d'un air où il y avait quelque dédain, et comme s'il eût pensé « Voilà un monsieur qui n'a rien compris aux événements que je lui ai exposés. » Hortense s'approcha de Rénine.
« Dites-lui que Geneviève a voulu se tuer, qu'elle se tuera fatalement. »
« Inutile. Les choses se passeront comme je l'annonce. Nous partirons tous les trois dans une heure ou deux. La demande en mariage aura lieu demain. » Le jeune homme haussa les épaules et ricana.
« Vous parlez avec une assurance ?»«
J'ai des motifs pour parler ainsi. On prendra un motif. »«
Quel motif ?»«
Je vous en dirai un seul. Mais qui s'y fera, si vous voulez bien m'aider dans mes recherches ?»«
Des recherches ? Dans quel but ?»«
Dans le but d'établir que votre histoire n'est pas entièrement exacte. »
Je vous prie de croire, monsieur, que je n'ai pas dit un mot qui ne soit l'exacte vérité. »
Non, je m'explique mal. Vous n'avez certes pas dit un mot qui ne soit conforme à ce que vous croyez être l'exacte vérité. Mais cette vérité n'est pas, ne peut pas être ce que vous la croyez. Le jeune homme se croisa les bras.
Il y a des chances, en tout cas, monsieur, pour que je la connaisse mieux que vous.
Pourquoi mieux ? Ce qui s'est passé au cours de cette nuit tragique ne vous est forcément connu que de seconde main. Vous n'avez aucune preuve. Madame Dormival et Madame Vaubois non plus.
Aucune preuve de quoi ?
Aucune preuve de la confusion qui s'est produite.
Comment ? Mais c'est une certitude absolue. Les deux enfants ont été déposés dans le même berceau, sans qu'aucun signe les distinguât l'un de l'autre. La garde n'a pas pu savoir.
C'est du moins la version qu'elle donne.
Que dites-vous ? La version qu'elle donne ? Mais c'est accuser cette femme !
Je ne l'accuse pas.
Mais si, vous l'accusez de mentir. Mentir ? Et pourquoi ? Il n'y aurait aucun intérêt. Et ses larmes, son désespoir, autant de témoignages qui confirment sa bonne foi. Car enfin, les deux mères étaient là. Elles ont vu pleurer cette femme. Elles l'ont interrogée. Et puis je le répète, quel intérêt ?
Jean-Louis était fort surexcité. Près de lui, Madame Dormival et Madame Vaubois, qui sans doute écoutaient aux portes et qui étaient entrées sournoisement, balbutiaient, stupéfaites.
« Ah non, non, c'est impossible. 100 fois nous l'avons questionné depuis. Oh ben non, pourquoi aurait-elle menti ? » ?»«
Mais parlez, parlez, monsieur, expliquez-vous. Dites-nous les raisons pour lesquelles vous essayez de mettre en doute la vérité certaine. »
« Parce que cette vérité n'est pas admissible !» déclara Rénine, qui haussa la voix, et à son tour s'anima jusqu'à ponctuer ses phrases de coups sur la table. « Non, les choses ne s'accomplissent pas ainsi. Non, le destin n'a pas de ces raffinements de cruauté, et les hasards ne s'ajoutent pas les uns aux autres avec tant d'extravagance. Hasard inouï déjà que la nuit même où le docteur, son domestique et sa servante ont quitté la maison, les deux dames soient justement prises aux mêmes heures des douleurs de l'accouchement et mettent au monde en même temps 2 fils. N'ajoutons pas à cela un événement plus exceptionnel encore. Non, assez de maléfices. Assez de lampes qui s'éteignent et de bougies qui ne brûlent pas. Non, 1000 fois non. Il n'est pas admissible qu'une sage-femme s'embrouille dans ce qui est l'essentiel de son métier. Si affolée qu'elle soit par l'imprévu des circonstances, il y a en elle un reste d'instinct qui veille et qui fait que chacun des deux enfants a sa place désignée et se distingue de l'autre. Alors même qu'ils sont couchés côte à côte, l'un est à droite, l'autre est à gauche. Alors même qu'ils sont enveloppés de langes semblables, il y a un petit détail qui diffère, un rien que la mémoire enregistre et qui se retrouve fatalement sans qu'il soit besoin de réfléchir. Une confusion. Je la nie. L'impossibilité de savoir. Mensonge. Dans le domaine de la fiction, oui, on peut imaginer toutes les fantaisies et accumuler toutes les contradictions. Mais dans la réalité, au centre même de la réalité, il y a toujours un point fixe, un noyau solide autour duquel les faits viennent se grouper d'eux-mêmes, suivant un ordre logique. J'affirme donc de la façon la plus formelle que la garde Boussignol n'a pas pu confondre les deux enfants. Il disait cela avec autant de netteté que s'il eût assisté aux événements de cette nuit. Et sa puissance de persuasion était telle que du premier coup, il ébranlait la certitude de ceux qui n'avaient jamais douté depuis un quart de siècle. Les deux femmes et leur fils se pressaient autour de lui et l'interrogeaient avec une angoisse haletante.
« En ce cas, selon vous, elle saurait ? Elle pourrait révéler ?»
Il rectifia. « Je ne me prononce pas. Je dis seulement qu'il y a eu dans sa conduite, durant ces heures-là, quelque chose qui n'est d'accord ni avec ses paroles, ni avec la réalité. Tout l'énorme et intolérable mystère qui a pesé sur vous trois provient non d'une minute d'inattention, mais bien de ce quelque chose que nous ne discernons pas et qu'elle connaît, elle. Voilà ce que je prétends. » Jean-Louis eut un sursaut de révolte. Il voulait échapper à l'étreinte de cet homme.
« Oui, ce que vous prétendez !»«
Voilà ce qui fut. Il n'est nul besoin d'assister à un spectacle pour le voir, ni d'écouter des paroles pour les entendre. La raison et l'intuition nous donnent des preuves aussi rigoureuses que les faits eux-mêmes. La garde Boussignol détient, dans le secret de sa conscience, un élément de vérité qui nous est inconnu. » D'une voix sourde, Jean-Louis articula
« Elle vit. Elle habite Carhaix. On peut la faire venir. »
Aussitôt, l'une des deux mères s'écria
« J'y vais. Je la ramène. »
« Non, » dit Rénine. « Pas vous. Aucun de vous trois. » Hortense proposa
« Voulez-vous que j'y aille? Je prends l'automobile et je décide cette femme à m'accompagner. Où demeure-t-elle ?»
Au centre de Carhaix. Une petite boutique de mercerie. Le chauffeur vous indiquera. Mademoiselle Boussignol, tout le monde la connaît.
Et surtout, cher ami, ne la prévenez de rien. Si elle s'inquiète, tant mieux. Mais qu'elle ne sache pas ce qu'on veut d'elle. C'est là une précaution indispensable si vous voulez réussir.